je voudrais d'abord vous dire quelques mots, vous présenter brièvement. J'ai aucun titre particulier à animer cette table ronde, mais comme Jean-André me l'a demandé, je le fais. Dire par là que il se trouve que je suis professeur de sociologie à Paris 8, sociologie de l'éducation, donc apparemment j'ai rien à faire ici. Et je lui disais ce matin, c'est la première fois dans ma vie, pas seulement dans ma carrière, mais dans ma vie, où je vais dans un colloque, et j'en ai fait beaucoup, où je vais dans un colloque sans à l'avance y connaître personne. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça très intéressant. Et c'est pas pour faire cette expérience que je suis venu là. Si je suis venu là, c'est parce que depuis un an et demi, j'essaie de mettre un peu de BRF sur mon jardin d'agrumes et de mimosa à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Bon, je vous en dirai quelques mots éventuellement tout à l'heure en tant que praticien ordinaire, mais on est nombreux. Je sais que beaucoup de praticiens du BRF qui ont autour de la table là n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Et je ne prétends pas qu'en une heure et demie, chacun va pouvoir tout nous dire. Mais je crois qu'il va falloir qu'on s'organise de telle sorte que quelques points importants qui marquent l'activité pratique du BRF devraient être répertoriés entre nous, qu'on puisse en marquer des points importants. Et puis, je vous proposerai quand même un mode de communication supplémentaire à notre discussion d'une heure et demie. Moi, je souhaiterais que chacun d'entre nous qui avons une pratique, qu'elle soit balbutiante ou plus expérimentée du BRF, puisse écrire sur sa pratique, la décrire tout simplement. Et on pourrait peut-être essayer d'arriver à des, non pas une fiche standard, mais je crois que si on veut pouvoir avoir un impact au-delà de nos propres pratiques à nous, c'est-à-dire en fait à faire de la vulgarisation scientifique sur cette découverte, je crois qu'il faut nous organiser, avoir quelques objectifs, et je ne prétends pas du tout en fixer ou en imposer, mais je voudrais quand même en proposer quelques-uns. Il serait important que, au-delà des variétés de nos pratiques, on puisse se mettre d'accord sur une fiche de vulgarisation. Alors, ça existe déjà dans plusieurs textes. Certains, moi je passe la documentation à des amis, quand ils n'y connaissent rien, qui ne sont pas des praticiens, tantôt ils le trouvent trop succinct, tantôt ils le trouvent trop détaillé. Il faut trouver des modes de communication qui fassent qu'on puisse populariser ce mouvement. Je pense qu'on vit un colloque historique. Je ne veux pas faire de dithyrambe ici, hein, mais je pense qu'on vit un colloque historique et peut-être on ne s'en rend pas assez compte. On vit un colloque historique non pas seulement de la rencontre entre agriculteurs et forestiers, qui est importante évidemment. On a senti qu'elle était peut-être un peu difficile, voire conflictuelle parfois. Mais enfin, c'est qu'un premier contact, je ne sais pas quoi. En revanche, on a vu surtout deux logiques, je crois. Une logique empirique, qui, notre collègue africain nous le rappelait ce matin, qui n'est pas seulement nos observations empiriques depuis qu'on fait du BRF, mais aussi des pratiques ancestrales qu'on peut reconnaître comme étant éventuellement précurseurs de ce qu'on va appeler aujourd'hui BRF. Donc, il y a des logiques empiriques. Et puis, on voit à côté une logique scientifique, on entend des experts en chimie, en biologie, etc. Et on voit bien aussi qu'il nous manque on a des trous qui nous manquent pour pouvoir expliquer le phénomène. Mais en revanche, on va dire, empiriquement, ça marche. Alors, je pense qu'il faut continuer à travailler ces deux logiques pour les confronter, mais surtout les faire se rencontrer. Moi, dans la sociologie, je suis un spécialiste, en fait, je pourrais dire, de l'interaction. Des interactions humaines spontanées, par exemple l'analyse de conversations telles qu'on peut les avoir quand on fait des salutations, lorsqu'on a des mauvaises nouvelles à annoncer, lorsqu'on se dit n'importe quoi de nos descriptions du monde. Donc moi je travaille sur l'interaction et je me dis que finalement, le mot interaction, c'est certainement le mot fondamental de ce phénomène incroyable qu'on appelle la vie. J'ai senti hier, et encore une fois je suis tout à fait profane en disant ça, j'ai senti hier que tous ces trous d'incompréhension que nous avons, on a à construire avec les scientifiques chacun dans leur branche, ces interactions qui nous manquent. Je crois que dans l'autre groupe va s'en occuper, mais les douzaines, peut-être centaines de micro-recherches qu'il s'agit de mener devraient probablement s'intéresser, on pourrait dire, aux synapses, je ne sais pas si mon image est bonne, mais aux synapses microscopiques qui agissent dans la fertilité des sols. Et c'est pour ça qu'en fait ça m'intéresse, parce que je crois que c'est un problème d'interaction. D'interaction physico-biochimique, tout comme on a des interactions humaines aussi. Le deuxième objectif, donc premier objectif, aboutir à une fiche, même si le provisoire est complété dans 6 mois ou dans 3 ans, à une fiche de vulgarisation. La deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on ait un je ne veux pas dire un plan de communication, ça n'est pas là, hein, j'aime pas ces termes-là, mais en tout cas, il faut avoir une stratégie. Et je me disais en tant que sociologue, mais aussi en tant que citoyen, tout simplement, que si le BRF se popularise vraiment beaucoup, dans l'agriculture en particulier, il y a des chances qu'on ait sur le dos le lobby de l'industrie chimique. On voit évidemment le danger quand même. Et on peut avoir des stratégies à long terme, puis aussi des tactiques. Et je me disais qu'une bonne tactique pourrait peut-être être envisagée que de passer par le monde des jardiniers amateurs, où le bouche à oreille fonctionne rapidement, qui a une multitude de réseaux déjà existants, de publications, papiers, de sites internet nombreux, et que les vecteurs, les supports de ce qu'on a à dire à propos du BRF pourraient facilement se diffuser dans le monde amateur. Et, bien entendu, continuer, pour tous ceux qui sont déjà ici des professionnels, et continuer, bien entendu, à populariser ça. Mais je crois qu'il y a derrière... Il ne faut pas être naïf, à terme, assez rapidement même, des puissances qui nous dépassent. Bon, des puissances économiques importantes. Donc, je crois qu'on pourrait consacrer un moment de notre réflexion à des vues un peu stratégiques et prospectives sur les façons qu'on pourrait avoir de dépendre à la fois notre connaissance, mais aussi ce message qui est un message philosophique dans le fond. Plusieurs l'ont abordé de façon sous-jacente, hein, qui est une philosophie de la vie en société et de la vie tout court. Donc voilà, peut-être quelques points, disons, pratiques et techniques. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer puissent le faire, avec au moins une idée, avec au moins une chose, une idée, un détail, par lequel il puisse commencer à dire quelque chose de son expérience du BRF. Alors, sinon, bien sûr, mais Jackie et d'autres ici sont peut-être plus compétents que moi pour le pointer, mais j'ai repéré bien sûr qu'il y avait des questions de quantité, à peu près connues, mais de qualité, d'essence, des questions de broyage et de coût économique éventuellement, de mise en place, est-ce qu'on fait tout de suite, pas tout de suite, est-ce qu'on met le compost avec, est-ce que d'ailleurs le compost est bien la même, est-ce que c'est pas une idée antagoniste finalement du BRF. Bref, ça c'est bon, on peut pas discuter de tout, mais voilà, je pense qu'il y a quelques points comme ça qui nous aideraient à faire donc ce projet de fiche analytique. Je peux peut-être dire juste un mot, et après je vous laisse la parole, de ce que j'ai fait moi. Bon, c'est pas très spectaculaire. J'ai entendu pour la première fois parler du BRF un matin d'octobre 2005. Quelqu'un parlait dans l'émission de France Culture, que je salue ici, de 7 à 8 tous les samedis matins, qui est remarquable, Terre à Terre. Je vous invite vraiment à écouter tous. J'ai entendu Jacques Dupetit, je ne connaissais pas encore, parler d'une drôle de chose, et je l'ai pris en cours de route. J'ai pu ensuite écouter la totalité sur Internet et j'ai commencé à chercher, avec les outils de chercheurs que je connais, disons, ce que c'était que le BRF. Et je crois que j'ai tout lu à peu près en un mois et demi, 2 mois. Et là, je me suis rendu compte que c'était en effet, je crois, une révolution. Et une révolution dans un autre style, bien sûr, mais qui peut être aussi importante que la découverte de l'électricité. Je pense que ça peut bouleverser de façon très considérable le monde. Et je pense en particulier à l'Afrique, Nous, on n'est pas bien, mais eux sont mal. Et, bon, on ne peut pas tout mélanger, parler de tout, mais je crois que beaucoup d'entre nous ont en arrière-plan l'idée de pouvoir pas seulement aider, mais sauver la vie dans certaines parties du monde. Voilà, donc j'ai découvert ce PRF, je l'ai immédiatement, un mois après, je l'ai étendu chez moi sur 500 mètres carrés d'agrumes. Les résultats, un an après, alors c'était du platane et de l'eucalyptus, complété par les tailles d'agrumes, que je réintègre aussitôt. En griffant aussitôt, je suis bêtement ce que m'avait dit le mieux de faire, de broyer, d'incorporer immédiatement. Et bon, le sol a changé d'odeur. Ça, tout le monde le sait, hein, on va pas recommencer tout ça. C'est vrai que j'ai vu des champignons pousser, ce qui n'était jamais arrivé en 30 ans. Les oranges, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Les rameaux ont eu tendance à ne pas pousser aussi vite que d'habitude. Les mandarines sont énormes, elles ont doublé de volume, mais elles sont moins nombreuses. Mais cela leur arrivait aussi dans le passé, pour des raisons climatiques ordinaires, d'être moins nombreuses. Donc je ne sais pas quel est exactement l'effet. Hein. Ce sont juste des estimations. Les citronniers béréfisés sont superbes. Peut-être plus luisants. Les feuilles sont plus grandes, un peu plus grandes, un peu plus épaisses peut-être. Plus luisantes, plus tendues, plus étalées vers la lumière et l'énergie. Il y a une tension comme ça qui est presque visible. Les verveines qui étaient à côté ont explosé. Le poids a doublé. Quoi d'autre? La passiflore est devenue folle de fruits comestibles. Bon, il y a eu des bizarreries. Les bananiers se sont arrêtés de pousser, par exemple, pendant 4 mois, alors que d'habitude, ils poussent de façon exubérante pendant tout l'été. Ils n'ont repris la végétation qu'en septembre, octobre. Bref, ce sont des observations qu'il est un peu tôt pour moi de faire, parce que je ne sais pas si je vois une différence vraiment significative. Je vois quelques indices. Je sens la terre qui n'a plus la même odeur. Je vois des indices, voilà. Mais je ne pourrais pas dire encore, comme Jackie peut le faire avec ses tomates, oui, voilà, j'ai vraiment une production significativement différente de celle d'avant. Mais je continue à en mettre au fur et à mesure dans toutes les terrasses. C'est un travail en terrasse à la main, donc c'est un peu fastidieux. Je découvre aussi que grâce au BRF, on travaille moins. C'est quand même essentiel, je trouve. Non pas de travailler moins, mais de travailler un peu autrement. Voilà. Je vous passe la parole. Allez-y. Attendez, excusez-moi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé d'intervenir plutôt au début, parce que vous avez un train à 16h. Mais même si vous n'êtes pas la première, peut-être on peut vous garantir de prendre le train. Bon, alors allons-y.
Alors, bon, moi aussi, j'ai une petite expérience BRF, je suis maraîchère, et comme vous, j'ai entendu...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prendre des notes? Parce que ça risque d'être... C'est toujours un peu difficile d'animer un groupe, de prendre des notes, pour faire la synthèse, comme ça, etc. Est-ce que quelqu'un veut bien essayer de... D'accord, merci. Juste un canevas, qu'on puisse continuer de discuter.
Alors, je suis maraîchère, donc depuis pas très longtemps, depuis 2 ans, et depuis 1 an, j'ai déjà une année d'expérience BRF. Donc comme je disais, j'ai entendu l'émission France Culture, ensuite je suis allée chez Jackie, et puis là j'ai commencé parce que je me suis dit que c'était la seule solution pour moi, vu que tous les jours il fallait que je me tire un tuyau d'eau de 100 mètres à ranger tous les soirs parce que mon père ne voulait pas que je le laisse dehors, donc j'avais pas trop le choix. Enfin, c'était vraiment fatigant la première année. Là, je vais vous parler des résultats que j'ai eus. Moi, donc, j'ai essayé de faire un peu de légumes. J'ai pas tout fait parce que j'avais qu'une petite surface de 1000 m². Donc, j'ai eu des résultats sur les tomates. Quoique au début, j'ai cru vraiment qu'il fallait que je recommence tout parce que je les ai plantées le 12 mai. Et jusqu'au 15 mai, elles ont jauni, flétri, et j'ai cru qu'elles allaient mourir. Mais en 12 jours, il y en a certaines qui ont doublé de grandeur. Donc là, je me suis dit, finalement, j'ai bien fait de les laisser en terre. Et puis du coup, bon. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu de maladie du cul noir que j'ai eu les 2 années d'avant. Là, il n'y a pas eu du tout. Moi, c'est peut-être une histoire de variété aussi. Donc pour la tomate, j'en ai eu jusqu'au mois de fin octobre. Donc c'est pas mal. Alors que les autres années, j'avais arraché tous les pieds déjà début septembre parce qu'elles étaient trop malades et que j'avais pas réussi. Ensuite, j'ai eu d'excellents résultats sur les légumes racines. Donc pour les betteraves, j'ai eu des betteraves qui faisaient 800 grammes, donc sans eau. Ça paraît, maintenant que vous avez compris le truc, hein, c'est que on ne sait pas comment ça marche, mais pourtant ça marche. Après les carottes, j'ai semé des carottes aussi. Au départ, elles se sont fait attaquer au niveau du collet par les pucerons, des pucerons cendrés. Comme les tomates, je me suis dit, il va falloir que j'arrache tout, que je recommence et tout ça. Et puis mon papa m'a dit, mais non, laisse, tu vas voir ce que ça devient. Et ça me fait mal de dire ça, mais il a eu raison. Parce qu'à la récolte au mois de juillet, y a des carottes qui ont atteint 32 cm. Donc avec la première partie au collet, c'était un peu vert. On voyait que ça avait été attaqué au départ, mais ça ne les a pas empêchés de pousser. Et puis elles étaient lourdes, il y avait beaucoup de matière sèche. Et en les épluchant, on voyait pratiquement à travers la peau, quoi. Il n'y avait pas de déchets, quoi. Enfin, même à la limite, on aurait pu manger la peau facilement. Et ça c'est mon expérience pour les légumes. Là, je viens de m'étendre, donc j'en ai rajouté 25 mètres cubes sur une surface de 1500 mètres carrés. Et puis je vais me remettre dans d'autres cultures pour voir comment ça marche. Ah oui, j'avais les courgettes. Alors les courgettes, ça m'avait donné beaucoup d'espoir quand j'avais entendu Jackie dire que la deuxième année, il avait eu 160 kilos sur 4 pieds. 190 kilos sur 10 pieds ou 12 pieds.
Ouais.
Alors moi, j'avais mis 10 pieds en pensant que... Et en fait, celle d'à côté qui était dans la terre, elle m'a donné deux fois plus que celle qui était dans le BRF. Et dans le BRF, elles ont eu l'oïdium très tôt. Alors que dans la terre, elles m'ont donné jusqu'à tard, quoi. Voilà, donc ça c'est les résultats donc, en légumes. Après, à mon échelle, j'ai converti déjà plusieurs particuliers, 5 ou 6 familles, à faire ça dans leur potager. Bon, je les ai aidés parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un élagueur qui me donnait son broyat. J'allais le chercher, mais enfin, il travaille avec une charte de qualité, donc tout ce qui était mort, il ne mettait pas dans l'état que je voulais. Tout ce qui était peint, il triait aussi. J'avais que du bon, quoi. De toute façon, il voulait que je le débarrasse, mais je lui avais dit, je te débarrasse que si tu me donnes que du bon. S'il y a du pourri, j'en veux pas. Donc, il avait fait tout pour que je prenne le plus possible. Et puis, je me suis permise d'en donner à des particuliers pour qu'eux fassent chez eux. Et en plus, ça va me servir de test parce qu'il y a une dame qui fait la collection des rosiers, par exemple, et qui me donnera les résultats quand ça fleurira, enfin la saison prochaine. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire sur les fruitiers et tout ça, moi je peux pas le faire, enfin je fais que du légume, donc en même temps ça me donnera des résultats par intermédiaire, quoi. Voilà, et en tout cas je suis très contente qu'il y ait cette table ronde parce que là on va pouvoir avancer sur le côté pratique.
Merci.
Bordeaux.
Oui.
Alors voilà, donc moi je suis en région de
Mais je vous proposerai la même chose que praticien
direct du BRF, je pense que ce serait utile que vous m'envoyiez, et ensuite on va les distribuer, les redistribuer, bien entendu, que vous puissiez m'envoyer une page synthétique sur la description d'un certain nombre de choses importantes auxquelles il faut faire attention, vos appels d'or, pour les tels règlements de communauté urbaine, etc., qui peuvent peut-être nous être utiles à tous.
Oui, parce que j'avais lu, j'avais examiné les sites internet canadiens, et où il était bien précisé que justement, les meilleurs résultats étaient atteints non pas avec des essences pionnières type bouleau et résineux, mais avec des espèces, des essences forestières. Donc, ce recul,
c'est quoi les essences forestières?
Pardon?
C'est quoi les essences forestières?
Chêne, hêtre, plutôt que du bouleau qui colonise facilement des friches.
Est-ce qu'il y a une dispute sur les essences?
Comment?
Est-ce qu'il y a une dispute sur les essences?
C'est pas clair. Non, je dirais pas de dispute, mais
je crois que c'est un point qui n'est
pas clair.
Non, mais il y a quelque chose de qu'il faut bien comprendre aussi. Avec les... Bon, c'est vrai que le mieux.
Si vous vous levez, peut-être ça simplifie.
Oui. Donc Jean-Claude Tissot, j'ai connu le professeur Lemieux en 92, j'étais un de ses étudiants, dont le professeur Lemieux était un professeur de dendrologie et systématique, donc la reconnaissance des végétaux, et l'aspect études BRF, il faisait à côté. Donc sa logique des BRF m'a plu assez rapidement, et j'ai voulu me lancer dedans au niveau études, donc j'ai fait ma thèse là-dessus. Notamment sur les essences, les indices de décomposition, qu'est-ce qu'on pouvait exactement, sur une partie plus modélisation que purement pratique, et déjà voir, et surtout pour étudier les BRF dans les processus de reconstitution de sols dégradés. Et c'est vrai que les essences, bon, il y a le postulat d'origine, il avait dit, bon, faut préférer des essences de forêt au stade climatique plutôt que des essences feuillues pionnières, comme les peupliers, les bouleaux, enfin bon, des essences comme ça. Je dirais, c'est pas tranché, les résultats ne montrent pas de différence significative. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est le mélange des essences. Et là, dans les différents protocoles étudiés, il y avait un mélange d'essences, donc de plusieurs essences de type de forêt. Et notamment un mélange de quatre essences qui était l'érable à sucre, qui est le feuillu dominant au Canada, le hêtre à grande feuille, le chêne rouge et le tilleul. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une synergie, statistiquement, il y a une synergie très importante au niveau de la décomposition. C'est-à-dire que ce mélange d'essences va se décomposer beaucoup plus rapidement que chaque essence prise individuellement. En comparaison, on a eu, ce qui n'était pas prévu, un effet très antagoniste au niveau des résineux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le mélange résineux se décomposait beaucoup moins bien que l'essence toute seule, finalement. Hein. C'était en sapin baumier et épicéa blanc. Cette histoire d'essence, de choisir la bonne essence à mauvaise essence, quand on a le choix, c'est bien. À la limite, moi je préférais du mélange de résidus d'élagage plutôt qu'une essence unique. Le problème, c'est qu'en pratique, on n'a pas vraiment le choix. Moi, j'ai un élagueur qui me fournit de manière assez importante et assez souvent. Je prends ce qu'il y a. Un jour, il y avait du noyer, un jour, il y avait du peuplier d'Italie, un jour, du chêne, un jour, du hêtre. Enfin, bon, c'est à la limite, c'est en fonction de la ressource. Il ne faut pas trop se focaliser sur dire « j'ai reçu du peuplier aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser, il y en a, on prend ». Les résultats, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à répondre ça. Les résultats à long terme sont à peu près identiques. Il n'y a pas de...
C'est le même type de lignine.
C'est le même type de lignine, exactement.
Si j'ai bien compris les travaux de
c'est
lignine,
pareil, hein, c'est une
l'essentiel, lignine, c'est que ce soit le même type de lignine
syringile qui est facilement décomposée par les bacilles omicètes et pourritures blanches. Contrairement aux conifères, où là, la lignine est rarement dégradée, dépolymérisée complètement, sachant qu'elle n'est jamais complètement dépolymérisée, faut s'en enlever ça de la tête, et justement une recombinaison dans le sol qui va permettre d'avoir la formation d'acide humique et d'humine relativement stable. Et le gros avantage, parce qu'en fait la question quand on utilise des BRF, c'est pourquoi on utilise du BRF. pourquoi on ne peut pas utiliser du compost ou des trucs comme ça, c'est justement, c'est la, avec le recul que j'ai, c'est la seule méthode qui permet d'avoir à terme carbone stable dans les sols. Donc si on veut remonter le taux de carbone d'un sol qui est relativement dégradé, c'est la meilleure voie.
Ou l'entretenir, même s'il n'est pas
ou l'entretenir, oui. Et c'est la meilleure voie pour augmenter de manière, et c'est ce que Benoît Noël disait, hein, pour un mètre cube de BRF, on a 75 kg de carbone, carbone organique dans le sol, ce qui est loin d'être négligeable.
Alors, une question.
Oui.
C'est juste, ça participe pas dans le fond en disant, par exemple, chez moi, j'ai fait d'analyse méthode hérodique. Et apparemment, chez moi, j'ai du carbone stable, j'ai du mu stable en pagaille. Mais par contre, il faudrait se dynamiser la bilirubine. Qu'est-ce que dans ce cadre-là, le BRF?
Bah oui, alors là il y a les études de La Rochelle. Qui était justement un de mes collègues qui a fait ça sur la mésophone du sol, notamment les micro-arthropodes, hein, les acariens, les colamboles, et une partie vers de terre. Et de toute façon, les résultats de recherche, on observe une explosion, c'est vraiment une explosion des colamboles et des micro-arthropodes avec le BRF. Donc il y a vraiment une stimulation très importante des chaînes trophiques du sol. Hein, et tout simplement pourquoi? Parce que bon, il faut connaître aussi la cause de ça. C'est que les champignons et les bacilliomycètes vont commencer à dégrader l'albumine. Il va y avoir un tissu fongique très important. Et en fait, les colamboles et les acariens vont brouter le mycélium. Et ce phénomène de broutage va activer, va dynamiser le mycélium. Donc il va y avoir une décomposition de plus en plus. Enfin, c'est une rétroaction positive qui aboutit à justement la formation de chaînes carbonées stables.
Oui, je peux ajouter quelque chose parce que c'est ma spécialité. Les colamboles. Il faut ajouter que quand les colamboles mangent des champignons, comme tu dis, les bacilliomycètes, c'est que comme toute bestiole qui mange, fait des matières fécales. Les matières fécales passent au travers d'un système digestif, comme tout ce qui se digère. C'est un système digestif bactérien. Et qu'à la sortie, il y a des bactéries spécialisées.
Oui, il faut dire que les matières fécales sont également reprises, des colamboles sont également repris par d'autres organismes, notamment les vers de terre, qui vont encore les biotransformer.
Les vers de terre ne touchent pas à ça, parce qu'ils ont d'autres fonctions.
Ils récupèrent ce qu'ils peuvent.
C'est plus les vers de terre qui les prennent. Après, moi j'ai travaillé là-dessus, à l'université d'Orsay, là-dessus, c'est des scientifiques qui m'ont appris, qui forment les étudiants en environnement. Donc, les colamboles, ils font les matières fécales et les bactéries suffisent maintenant à prendre la suite des choses et à nourrir les plantes, etc.
Oui, c'est ça, c'est la biostimulation des chaînes trophiques.
Voilà.
C'est exactement le principe.
Ouais.
Mais
les colamboles, il faut ajouter que les colamboles, ils ont plein de petits poils sur le dos. Et quand ils transportent des spores de mycélium et ils transportent des spores de basidiomycètes, ils vont les influencer plus loin. Ouais, comme ça fonctionne.
J'ai beaucoup de demandes de prise de parole. Allez-y. Puis vous.
Yann Lata, donc je fais des lagages. Et je voulais revenir par rapport au choix de pouvoir mélanger différentes essences d'arbres. Si on broie au fur et à mesure, par exemple, dans un chantier, et quand même ça chez quelqu'un, moi en l'occurrence chez Jackie, qui va l'étendre tout de suite, c'est impossible de mélanger les essences. En général, c'est impossible. Si par contre, comme ça a été dit depuis deux jours ou depuis hier, tout le monde n'épand pas tout de suite le produit du broyage, dans ce cas-là, on pourrait y arriver. Mais il faut bien définir dans quelle méthode on travaille vraiment. Parce que ce qu'on fait avec Jackie, c'est broyer et étaler tout de suite. Ça ne chauffe pas. Et beaucoup d'interventions depuis hier, c'est impossible que ça n'aille pas chauffer.
Moi, hier, j'avais deux pensées de cette sorte. Premièrement, si on stocke du broyat, il commence à chauffer immédiatement.
Voilà.
Quasiment immédiatement.
Voilà.
Deuxièmement, si on stocke des branches à broyer plus tard, selon les régions où on habite, la durée de vie de la branche est très variable.
Et même le problème, ça va être
amené. L'hiver,
amener les branches non broyées.
Les mimosas coupées sont sèches et on ne peut plus s'en servir pour du BRF.
Amener les branches non broyées, pardon, c'est un non-sens total quand même. Au niveau écologiquement, bilan énergétique.
Pour pouvoir garder et faire un mélange, il faut soit garder des branches et attendre d'avoir un stock de branches diversifiées, soit garder du broyat issu de branches différentes.
Voilà.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport.
En tout cas, c'est variable.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, enfin, je vois dans les questions et tout ça, est-ce qu'il faut utiliser le BRF tout de suite ou est-ce qu'on peut le stocker, est-ce qu'on peut pas le stocker?
Question de base.
Alors, je vais vous répondre très simplement. Et à la limite, c'est de Boénergie qui m'a fait voir ça de notre œil. Quand on fait des plateformes de stockage pour le Boénergie, c'est le même principe. Hein, on va stocker des quantités très importantes de plaquettes. Le but, c'est de l'assécher. Et le meilleur moyen pour l'assécher, c'est les champignons. En fait, ils vont commencer à récupérer les sucres, enfin les éléments solubles, hein, les sucres, certaines protéines et tout ça. Et en fait, ça va se stabiliser à un moment donné. Et ce que j'ai remarqué, c'est dans, j'ai retrouvé des élagueurs qui en fait déchargeaient sauvagement du broyat en forêt en tas. Et j'ai retrouvé des tas qui avaient à peu près 5-6 ans et qui étaient relativement stables. Et en fait, le processus de dégradation, finalement, est peu affecté. Voilà. Il est peu affecté par ce pré-compostage, disons. Et on peut, sans problème, utiliser du BRF qui a chauffé.
Il a déjà chauffé.
Et de toute façon, il va se stabiliser.
Absolument.
On a perdu une partie d'énergie, quand même.
C'est pas énorme. C'est pas énorme, parce que de toute façon, ça va être de la respiration microbienne en CO2. Ça allait dans ce semi-compostage. Et après, bon, bah... Non, on a limité les pertes, disons.
Non.
Malgré ça.
Moi, des travaux d'hier que j'ai lus, j'en tirais peut-être à tort la conclusion que à chaque fois que tout début de compostage,
ça tue.
Gaspiller en quelque sorte une partie d'énergie qu'on pourrait mettre directement dans le sol tout de suite.
Et Jacques Hébert préconise un pré-compostage en grand tas, justement.
Pré-compost.
Voilà, pré-compost.
Moi, je suis plus sur
les états énormes, d'après ce que j'ai vu. Ça, c'est plutôt.
Premier jour. Mais ça dépend pour les utilisations.
Jackie, oui. Ah, pardon, oui. Allez-y.
Bon, enfin, moi, c'était déjà sur les essences, et juste par rapport à cette histoire de compostage, c'est très subjectif comme approche.
Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Mais je dirais que, intuitivement, personnellement, je ressens beaucoup plus le modèle naturel et il me semble que le pré-compostage demande beaucoup plus de travail et est beaucoup plus éloigné finalement de la méthode la plus simple qui me paraît la plus évidente pour le réaliser. Moi, j'avais une question par rapport aux essences particulièrement parce que j'entends parler de très beaux arbres, de hêtres, de choses comme ça. Moi, je suis à la frontière espagnole en Catalogne. C'est en train de tourner semi-désertique chez nous et les hêtres, on les a en photo. Joli, mais tout ce qu'on a, nous, c'est des petits arbustes rabougris. On a du chêne vert et ça, on m'a vraiment déconseillé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés parce qu'en fait, l'an dernier, j'ai lancé un petit jardin suite à l'écoute d'une émission sur France Culture, que je vais pas faire du pareil, un samedi mémorable. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés et le problème des essences par chez nous est toujours un énorme problème parce qu'à part le robinier, et c'est assez limité. Tout ce qu'on a, nous, c'est des petits taillis. Alors, le genêt, les choses comme ça, on a fait des petites expériences, mais s'il y a des retours d'expérience en milieu méditerranéen, je me suis pas mal intéressé au travail des Templiers aussi, parce que je sais qu'eux avaient... Bon, c'était du compost de broussailles qu'ils faisaient, mais bon, il m'avait semblé que ça pouvait... On pouvait peut-être trouver des bois. Enfin, s'il y a des gens qui ont des renseignements en Catalogne et dans tout le sud...
Et comment ils faisaient, Jean-Pierre?
C'est pas le même concept. Je suis pas en train de dire qu'il était mauvais sans concept. Hein. Mais le BRF et le compostage sont deux concepts différents.
Voilà. Ouais, oui,
dans un cas, on va dire qu'on dégrade de la matière. Dans l'autre, on la biotransforme et on crée des chaînes de vie.
Je crois que
ce sont deux concepts opposés.
Par rapport à un travail avec la nature, on travaille avec la nature. Moi, j'ai un raisonnement tout simple. C'est que toute matière végétale produite par la nature est recyclable. Hein? Alors donc, moi, j'ai lu dans les travaux de Gilles Lemieux qu'il ne fallait pas utiliser le buis. Hein? Je suis arrivé dans un Carmel de Sœurs. Il y avait un grand parc avec plein de buis, des quantités de buis. Hein? Et M. Cholet, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah, et bien j'ai dit, vous le mettez en taille ici, j'amène un broyeur, on le broie et on met vos fruitiers. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et 6 mois après, j'enfonçais la main comme ça jusque dans le sol. Bon, alors, qu'on arrête de dire que ce qui n'est pas de nature, l'échelle verte, moi je suis mal au ventre. D'entendre l'échelle verte, c'est inutilisable. Hein, c'est mal au ventre d'entendre que les chaînes vertes ne sont pas utilisables.
Ah, attends, je n'ai pas dit. J'ai
non, non, mais on vous l'a dit.
C'est le mieux qu'on puisse utiliser en région méditerranéenne.
On vous l'a dit.
Je crois que le principe, si j'ai compris, c'est le mieux, c'est d'utiliser les essences locales.
Oui, mais c'est bien
final. À l'exception des épineux. Là.
Même en BRS.
Et j'avais un autre
point naturel.
J'avais un autre point à relever.
Oui, allez-y, on n'a pas fini.
Par rapport au protocole qu'on prétend peut-être mettre en place, au travers de tous les témoignages que j'ai entendus, au travers du mien, puisque bon, l'an dernier j'ai lancé 200 mètres carrés de jardin, sur du platane essentiellement, il faut vraiment prévenir que la première année, il faut s'attendre à des choses aberrante, mais au sens le plus comique du terme. Je veux dire que il peut se passer n'importe quoi. Moi, au niveau du jardin, je ne vais pas vous assommer avec les résultats, mais j'ai aucune courge cet hiver à manger. Par contre, j'ai encore des poivrons sur pied qui sont rouges, qui sont délicieux. J'ai récolté mes dernières courgettes il y a 15 jours sur des pieds de courgettes qui ne m'en ont pas donné jusqu'en octobre. Ils étaient quasi morts jusqu'en octobre alors qu'ils avaient été mis en mai.
Des observations bizarres.
Voilà. Et il me semble que l'image qui m'est venue quand je regardais ça, c'est que c'est un petit peu comme si on changeait complètement de carburant. Et il faut le temps que l'organisme s'adapte à ça. Et quand un organisme change de type d'alimentation, par exemple, si quelqu'un passe d'un régime carné à un régime végétarien, ben, dans son comportement, il y a des aberrations au départ. Et c'est valable pour tous les organismes vivants. Il faut un temps de régulation, d'équilibrage. Et vraiment, il faut prévenir qu'on peut avoir la première année n'importe quoi.
Il y a une explication à cela ? Tout simplement que la première année, quand tu démarres, ça trouble des cycles, ça trouble un travail du sol, et tu arrives à avoir des cultures qui sont décalées un petit peu dans la saison, mais l'an prochain, tu n'auras plus ça.
Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il me paraît important,
ça qui est étonnant. Non, mais pas forcément. Ce qu'il faut savoir, parce que ça revient avec le processus de fin d'azote, hein, on en entend souvent parler.
Voilà.
Alors, le processus de fin d'azote est systématiquement vérifiable par n'importe quel dispositif expérimental avec l'utilisation des BRF. Ce que j'entends dire, non, il n'y en a pas, il y en a toujours. Tout ce que j'ai étudié, qui était un protocole relativement bien ficelé, il y a toujours une fin d'azote.
On enfouit ça.
Des slabs, non, même en paillage, mais
légèrement. Sur le sol, en paillage, jamais de fin d'azote. Depuis 73.
Dès qu'on enfouit, cette fin d'azote sera beaucoup plus importante. Le paillage, effectivement, pour des arbres ou des végétaux qui ont un enracinement un peu plus profond, n'a aucun impact sur la fin d'azote, tout simplement parce qu'il peut récupérer l'azote d'ailleurs. Par contre, à l'interface entre le paillage BRF et le sol, effectivement, il y a une dépréciation, il y a une fin d'azote, il y a moins d'azote disponible. Alors, ce phénomène de fin d'azote, il a été expliqué, alors c'est un peu bizarre, par les ingénieurs des pâtes et papiers. C'est dans les années 80, Kirk et Farrell, c'était deux chercheurs pour des papetières qui cherchaient à éliminer la lignine du bois pour récupérer la cellulose, mais d'une manière biologique. Et donc, ils ont utilisé des champignons, et notamment les champignons de pourriture blanche relativement connus et cultivables. Ils se sont rendus compte que, donc effectivement, cette fin d'azote, le champignon, ce qu'il va faire, et c'est là qu'ils ont parlé de combustion enzymatique en décrivant un processus de métabolisme primaire et secondaire. Dès qu'on va, et on peut prendre exactement le parallèle au niveau des BRF, c'est-à-dire que dès qu'on va épandre du BRF sur le sol ou l'incorporer, hein, même principe, le champignon, il va... Bon, il y a toute une chaîne trophique, hein, il n'y a pas que des champignons, il y a des bactéries, il y a des animaux, il y a n'importe quoi. Ce qui va se passer, ben, c'est un phénomène, ben, on va travailler le moins possible pour gagner le plus. Donc en fait, le champignon va récupérer toutes les matières carbonées facilement assimilables, solubles, les sucres, enfin tout ce qui est facilement accessible sans travail. Donc à partir de là, lui, il va se développer, il va récupérer ça rapidement. C'est ce qu'on voit un peu quand ça chauffe, c'est cette pullulation de moisissures. En fait, c'est ça. Le champignon va récupérer uniquement des sucres. La lignine, la cellulose, tout ça, ben, la cellulose, il ne peut pas l'attaquer parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle est entourée par des microfibres de lignine. Et ensuite, quand tous ces éléments disparaissent, alors là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'il dépense énormément d'énergie. Parce qu'il va justement rentrer dans un processus de métabolisme secondaire, et qui a été parfaitement décrit par ses chercheurs, et qui est vérifiable. Il va développer des enzymes de type lacase, peroxydase, ligninase, justement pour dépolymériser la lignine. Et c'est à ce moment-là, et c'est là que correspond la fin d'azote. Parce qu'il va, pour faire ces enzymes, il faut des protéines. Donc il va pomper un maximum, et au niveau du sol, l'azote disponible. Justement pour avoir assez d'énergie, pour briser les liens de lignine, pour avoir accès à la cellulose, et ensuite remettre en disponibilité une grande quantité d'éléments minéraux, NPK, CMG, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les composants du bois. Donc en fait, bon, c'est marrant de trouver l'explication finalement par des chercheurs de pâte et papier, mais ce processus au niveau du sol est exactement le même. Et cette fin d'azote qu'on observe, et c'est vrai que ça correspond généralement à un an après la mise en place de BRF, on observe une fin d'azote qui est très importante, et c'est exactement au moment où les champignons vont commencer leur métabolisme secondaire et commencer à fabriquer des enzymes pour dégrader la lignine.
Oui, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais je voulais te prendre un peu à témoin, Daniel, pour te dire. C'est vrai qu'on est dans un monde de certitude, et c'est vrai que tu as une expérience longue, même si tu faisais du BRF sans savoir que c'était du BRF. Mais je pense que tous, et moi-même, on est, en tout cas moi, mon expérience avec cette technique des BRF, c'est l'incertitude. Moi j'ai une approche très sensorielle de ce qui se passe, très profonde, parce que c'est quelque chose qui nous échappe, que la science essaye d'expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui se penchent sur cette histoire-là, mais jamais on ne saura vraiment pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est le vivant, donc on ne sait jamais pourquoi le vivant. Et oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut avoir suffisamment de... En tout cas, moi, j'essaye d'avoir ça, et des fois, je m'écrase, je ne sais pas répondre. L'humilité de se dire que c'est quelque chose... quand les gens le mettent en pratique, il y a un rapport à la Terre qui s'établit, qui est complètement différent de celui qu'on avait avant, quand on faisait son jardin comme le grand-père ou même le père. Et ce contact-là et ce rapport au vivant, et moi sur mes terres du cause, de voir que au mois de février il y a des vers de terre en pagaille en surface qui se reproduisent, c'est la genèse de la vie qu'on a là, et ce côté-là il ne faut pas le briser dans la relation qu'on a en essayant d'expliquer et de mettre en place des protocoles qui risquent peut-être de nous couper de cette communication. Je pense qu'il est important, parce que l'agriculture a fait plein de conneries, ne connaît pas le vivant, que moi je sais que tous les gens avec qui j'ai des contacts qui viennent à la ferme, en majorité ce sont des femmes, j'insiste là-dessus, ce sont des femmes, des jardiniers la plupart du temps, ou jardinières, il y a quelques hommes, mais sans doute des hommes qui ont dévoilé leurs femmes, et ce côté-là c'est nouveau. Je pense que c'est nouveau dans ce qui se passe et dans notre rapport à l'alimentation aussi. Donc il ne faut pas briser avec des protocoles trop contraignants ce qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai une pratique depuis 3 ans et c'est ma pratique avec ma démarche par rapport au travail et que sans doute c'est pas bien, mais c'est ce que j'ai établi, mis au point, qui fonctionne. Et que je pense que chacun a ce rôle-là de prendre le pouvoir sur lui-même, quoi. Parce qu'il y a trop de recettes et de trucs, il suffit de lire tous les bouquins de jardinage. Vous faites ci, vous faites ça, c'est la baguette magique, ça va fonctionner. Non, là, c'est quelque chose, on sait que ça fonctionne, et qu'il faut absolument reprendre le rapport à la terre, quoi.
Allez-y.
Je suis technicien horticole, et j'aimerais utiliser les BRF en pépinière ornementale. Je m'interrogeais sur... Je m'interrogeais en fait sur les applications du BRF. Si par exemple on utilise les BRF une fois tous les 5 ans, j'imagine qu'il y aura une grosse réorganisation de l'azote, une fin d'azote assez conséquente. Mais si on l'utilise un petit peu une fois tous les ans, Est-ce que en rodage, on aura toujours une réorganisation ou pas?
C'est au départ qu'il y a...
Je me pose la même question. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la taille des arbres fruitiers, qu'ils soient agrumes ou autres, si on réincorpore, comme le Dieu et plein d'autres nous le conseillent, dans le sol, le broyat des tailles, on va en rajouter chaque année. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Est-ce que la perturbation ou les perturbations que vous décrivez risquent de se reproduire en permanence ou au contraire, va-t-il y avoir, en quelque sorte, une fois que le déclenchement de la première année est fait, est-ce qu'il y a une accélération
du
processus des années suivantes ou est-ce qu'on recommence, voilà.
Moi, j'ai une vision un peu plus scientifique de la chose, tout simplement. Enfin, j'ai été confronté depuis pas mal d'années aux ingénieurs agronomes qui sont... qui sont relativement bornés, faut pas se voir la face. Et donc, le meilleur moyen, c'était quand même de parler le même langage qu'eux.
Ils n'aiment pas la nouveauté.
Voilà. Donc, surtout expliquer les mécanismes. Donc, c'était la recherche. Je n'ai pas du tout l'intention de dire que je connais tout, loin de là. Hein. Mais bon, on essaye quand même d'expliquer. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et on essaye quand même de trouver des explications à certains phénomènes. Et pour répondre à la question...
Le renouvellement annuel, alors, qu'est-ce que vous...
Pour répondre à cette question, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le principe de métabolisme secondaire. Ah. En fait, on va lancer sur un sol qui est généralement agricole, qui a peu de champignons, donc toute une colonie fongique assez importante en termes de quantité et de diversité. Les premières années, la première ou la deuxième année après épandage. Et c'est vrai qu'une fois que ce champignon est bien installé, il reste là, hein, de manière quasi permanente, et au fur et à mesure qu'on va rajouter du BRF, il a déjà ses enzymes présentes pour dépolymériser l'alinine. Donc c'est vrai que cette fin d'azote est beaucoup moins, voire pas importante par la suite.
Ou n'existe plus.
S'il y a suffisamment d'azote pour répondre.
La question, faut-il la première année rajouter de l'azote ou pas? Parce que
il y a une expérience. Ça, c'est une question que
ça, c'est purement pragmatique.
Se pose.
Oui. Soit vous avez la possibilité, vous dépendez pas, ça dépend pas de votre salaire. Pendant un an ou deux ans, vous cultivez pas et le BRF peut rester là, il va se décomposer. Le problème de fin d'azote va se régler de lui-même.
Si on en vit, c'est un peu différent.
Soit vous en vivez et vous pouvez pas vous permettre d'avoir des hectares mobilisés, immobilisés, quoi. Donc moi, de manière très pragmatique, je mets de l'azote la première année quand je fais un épandage massif. De notre côté, j'ai du terrain que j'utilise pas. Là, j'en mets pas. Mais le résultat, finalement, à terme, est le même.
Je voudrais à la fois respecter vos paroles et en même temps ne pas couper les spontanéités. Vous savez que c'est impossible, alors je vais faire comme je peux. C'était une réaction tout de suite, là. Allez-y. Oui, c'est ce que mon voisin disait aussi. Purin d'ortie pour compléter.
Voilà.
Faire un apport complémentaire.
Et alors ?
De toute façon, après une plantation, c'est très bien de mettre du purin d'ortie, ça.
Oui, mais il ne faut pas dire, et puis c'est tout. Moi je suis sûr que, moi, c'est déjà ma demande de vous dire, mais on sait qu'il faut à peu près 200 mètres cubes à l'hectare de BRF. Moi, j'ai enfin compris que ça fait 2 cm par mètre carré. Donc ça, je suis ravi de ce genre de mesurette.
D'accord.
Alors, je poserai la question à la même chose. Pour ceux qui veulent ou qui doivent, qui ont peur d'eux, etc., cette fin d'azote, combien, quelle dose du purin d'ortie? C'est un litre par mètre carré, c'est quoi?
On met une giclée normale d'arrosoir au pied de la plante, ça y est.
Mais oui, mais c'est comme...
Il n'y a pas de dose.
Je vous dis, tu mets une poignée dans le...
Non, mais
il y a quoi, une poignée?
Il n'y a pas de dose.
Dis-nous, c'est quoi, selon toi, la dose? Non, pas la bonne dose, ta dose à toi.
Selon moi, il n'y a pas de dose. Il ne faut pas rigoler du tout. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de dose. Parce que si je vous explique les doses selon les plantes, on n'a pas fini ce soir.
D'accord.
Hein? Alors, parce que les doses sont fonction de quelle plante, à quelle plante on s'adresse. Si vous y allez à la tomate, vous mettez trop de purin d'ortie à la tomate, et puis elle sera bien verte, elle aura beaucoup de feuilles, et elle n'aura pas de fruits, vous allez faire couler la fleur. La remettez une fois du purin d'ortie, point final. Mais j'ai dit une giclée d'arrosoir, c'est pas... On va pas se mettre à aller chercher une balance et une mesure pour mesurer tout ce qu'on fait. Alors, on faut faire ça à la paysanne.
On parle d'estimation, pas de mesure. Paysanne.
Oui, j'ai une question, c'est sur la dose en fait. J'ai interrogé quand il y avait 3 cm de BRF, il n'y avait pas d'action. Quand il y avait 8 cm de BRF, il y avait une vraie action. C'était un peu... Moi, je n'ai pas pratique. C'est ce que j'ai entendu.
La salle de vignoble, attention. La salle de vignoble, c'est totalement différent que d'une grosse.
Vas-y.
Alors, pour le purin d'ortie, moi, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas en mettre un arrosage au pied d'un pied de tomate ou de n'importe quel légume qui pousse dans le BRF parce que l'azote du purin d'ortie va être pris par le mycélium.
Ouais.
Alors, il faut plutôt le mettre en foliaire. Un arrosage,
c'est sur les feuilles. Il faut mettre sur les feuilles, le purin d'ortie.
En foliaire.
Il est efficace sur les feuilles. Moi, j'arrose les tomates, je pulvérise les tomates avec en pleine chaleur. Il ne
sert à rien au pied puisqu'il va être pris par le champignon. Il n'ira pas à la plante. Donc, autant le mettre sur les feuilles.
Il n'y a pas besoin qu'il aille à la plante.
Comment ça?
Sinon, au champignon, vous n'avez pas la fin d'azote, c'est tout.
Il y a
qu'est-ce qu'il a expliqué tout à l'heure?
Non, attendez, il y a plusieurs. Allez-y, sur ce sujet, allez-y.
Moi, c'est vous, madame. C'est juste une question d'un collègue qui se trouve dans un autre, qui demande d'être posé. Avant qu'on parte sur tout ce qui est fertilisation, est-ce qu'il y a des expériences ou des contre-indications concernant l'emploi de bandeau?
Oui. Gilles Lemieux, à qui j'ai posé la question dès les premières semaines de mes découvertes, parce que moi j'ai des roseaux, j'ai des bambous, des trucs comme ça, que je voulais couper, et je lui ai posé la question, il m'a dit non, attention, pour les mêmes raisons physico-chimiques, c'est pas les dits, mais c'est les monos, il ne faut pas de bambou, pas de canne, enfin toute cette sorte de choses qui est une lignine particulière, mal dégradable ou pas de la même façon. Et qui appauvrit les sols.
C'est du gazon géant, hein.
C'est pas...
Donc non, pas de bambou, roseau,
canne de Provence.
Allez-y, madame.
Pour rebondir par rapport au sujet sur la vigne, j'ai eu l'occasion il y a 15 jours de visiter la vigne d'un vigneron qui broie ses sarments depuis 25 ans. Il ne s'est pas posé la question de savoir combien il en mettait. Il remet les sarments qui coupent à sa vigne. Voilà. Un point, c'est tout. La terre de sa vigne est magnifique. Je lui ai proposé de venir ici. Il m'a dit, demandez à M. Bourguignon de venir me voir. Voilà.
En fait, c'est peut-être une contre-vérité, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'aucun vigneron ne faisait ça, mais 98% des parcelles de vigne, surtout avec le bretaillage mécanique, le bois reste sur place.
Il prend un brûlé.
Il a été brûlé pendant
des régions, les mécanismes changent. Allez-y, oui.
Bonjour, Christophe Dorf, de la mairie de Bordeaux.
Mairie de Bordeaux.
Oui, mairie de Bordeaux.
Bienvenue.
Maire du patrimoine arboré de la ville. C'est vrai que je n'ai pas des problématiques de culture légumière. Par contre, je me pose des questions. À l'issue de ce colloque, nous, ça fait 15 ans qu'on fait donc des paillages, notamment au début, ça a été au niveau des arbres pour leur préservation. Et aujourd'hui, je me pose, en entendant tous ces débats, je me pose la question sur l'incorporation. En forêt, on dit qu'on s'inspire de la forêt pour le BRF. L'incorporation, c'est tout naturel, c'est une litière. Et je me pose une question sur cette incorporation. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me répondre.
C'est pas
l'intérêt.
On peut pas. Le but, pourquoi on utilise des BRF? C'est pas parce que c'est un. Je vais mettre un peu là. On veut pas imiter la forêt. Bon, malgré, c'est ce qui a été dit un peu. C'est le système forestier, on le transpose finalement au système agricole. Mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'augmenter le taux de carbone des sols. Hein, ça a été parce que bon, je vais juste vous rappeler l'historique des BRF. D'où c'est venu. Une minute. En fait, c'est en 76. Jean-Pierre Tréteau, qui était le sous-ministre adjoint à l'agriculture, à un moment, il voit dans des tas de drèches de thuya qui étaient utilisées pour les huiles essentielles, donc qui étaient finalement séchées, où les huiles essentielles avaient été enlevées. Il y avait des tas à côté de l'usine qui étaient très importants. Et était confronté, il y avait un agriculteur qui avait dit, mais moi j'ai pas de matière organique dans mon sol, je cultive du blé et j'ai des rendements qui sont en train de diminuer. Et il a dit, bah tiens, il y a pas mal de carbone dans ce truc-là, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti de là, et alors, en plus, il y a eu une période de sécheresse très importante.
C'est ça.
Et les champs voisins qui n'avaient pas été amendés en BRF, bon, la récolte était nulle. Et c'est le seul agriculteur qui a réussi à avoir une récolte de blé correcte à la fin de l'année. Donc, il faut faire attention. C'est pas une philosophie. On dit la forêt marche comme ça, donc on va faire pareil. C'est juste un outil pratique pour augmenter le taux de carbone des sols. Donc, on peut le mettre en paillis, on peut l'incorporer. Tout dépend de l'utilisation qu'on va faire. Si on veut vraiment cultiver de manière passive, Il faut l'incorporer. Vous cultivez, moi c'est ce que je fais, j'ai beaucoup de petits fruits, framboisiers, groseilliers, tout ça, je mets en palis, ils sont magnifiques, l'été passe bien, j'ai des super récoltes, je n'ai pas besoin de l'incorporer. Tout dépend l'optique, mais on ne veut pas imiter le système forestier. C'est pas...
C'est bien parce que vous avez un petit peu restitué le concept et le début du BRF. Ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que je me posais des questions parce qu'on parle, on a quasiment parlé de l'incorporation, alors que, c'est contraignant.
Pour cultiver des arbres,
il y a plusieurs pratiques un peu différentes.
Non, moi, je peux dire que sur les arbres, je mets du bouraya que je laisse sans y toucher.
En paillis ?
En paillis, oui. Mais sur les cultures maraîchères, je mélange le broyat avec la terre et les cailloux.
Moi, je mélange pour mes arbres. Ouais, ouais. Pas de paillis.
Alors,
J'en sais rien. Moi, j'ai mis complet avec vous, c'est d'essayer d'arriver à un mode d'emploi compréhensible par le plus possible de personnes, et que ce soit qu'on puisse le mettre en œuvre en gagnant du temps par rapport à toutes nos interrogations à nous. Si on peut faire gagner du temps autour, je crois que c'est ça. Allez-y.
J'ai une petite expérience, une humble expérience. Je remercie Jackie parce que c'est peut-être pour Noël 2004 qui m'a parlé à ses tout débuts de ses expériences de BRF. Et, moi, je travaillais dans un jardin pédagogique dans le col de la Villette, donc j'étais responsable de jardin. Et dès que j'ai vu, ça n'a pas été facile de trouver le broyat. C'est finalement la ville de Paris qui m'a permis. Et donc, j'étais sur une dalle de béton avec des bacs, pas hors sol, parce que ce qu'on dit hors sol, c'est vraiment normalement. C'est de l'eau, c'est de la culture sans terre. Donc j'étais dans des bacs de surface moyenne de 20 mètres carrés, mais la hauteur c'est entre 40 et 60 cm. Je travaillais avec des handicapés aussi. Et je dois dire que le BRF c'est vraiment très très bien de travailler avec des handicapés parce que nous ne pouvions pas creuser. C'est des handicapés moteurs et psychiques, donc ils avaient vraiment des gestes pas très précis. Donc ce que j'ai remarqué là, je l'ai fait donc, sur l'année 2006. Mis en œuvre le BRF, là je l'ai eu qu'au mois de février, donc ça a été assez court pour pouvoir le tester. Et au niveau de l'arrosage, j'ai trouvé vraiment une révolution. J'avais un bac témoin où il y avait des crevasses au mois de juillet, là où il a fait si chaud, comme j'étais sur une dalle de béton en plus, c'était le cagnard, vraiment pas possible. Donc j'avais un bac où il y avait des crevasses et j'étais obligé de l'arroser trois fois par jour, et le bac où il y avait le BRF, donc j'avais mis des pieds de courgettes, des tomates qui me donnaient. J'ai pas vu de frein d'azote, mais c'était des pieds que j'avais plantés. Alors peut-être que ça change la donne. Par contre, avec les semis, j'ai eu des échecs, sauf le blé que tu m'avais donné, rouge de Bordeaux, ça a marché. Et donc l'arrosage, c'était trois fois dans le mois. Alors que l'autre bac, c'était trois fois par semaine, par jour. L'autre bac, il y avait un peu de paille. Mais je l'avais accepté. Ah non, c'est sur une dalle de béton. Donc complètement déconnectée du sol. Quand je suis arrivée, les jardins existaient déjà et donc ils étaient remplis de terre. C'est un agriculteur bio qui avait fourni le sol, donc c'était une bonne terre qui fournissait bien. Ça a toujours été gonflé en bio, donc il n'y a jamais eu d'intrants, il n'y a jamais eu de produits chimiques, de pesticides. En plus, sur ce jardin, il y a toute une zone naturelle, une friche qui s'est développée toute seule, qu'on a maintenue pour avoir des insectes auxiliaires, et ça fonctionne bien, vraiment très très bien. Mais là, au niveau en tout cas de l'arrosage, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Voilà. Et j'avais mis à peu près 4 cm d'épaisseur de BRF. Mais moi, ma question, justement, je rebondis, parce que ma difficulté, ça a été le semis. Je ne savais pas s'il fallait. Alors j'ai essayé de mélanger. J'ai essayé d'écarter, de faire un petit semis dans la terre, de remettre.
Et bon, il faut dire qu'il y a une chose aussi, c'est les pigeons adorent le BRF, parce qu'il y a plein de bestioles dedans, donc alors ils adorent, donc ils picorent deux fois plus. La paille, j'ai fait parce que j'ai fait aussi un bac Fukuoka, et ça je dois vous dire que Fukuoka c'est absolument formidable, avec de la paille. J'ai une récolte de blé absolument incroyable. Donc ça aussi, ça a très très bien marché. Et les pigeons, ils ont, mais au début, ils, je les ai bien vus parce qu'ils ne connaissaient pas la technique. Pas dans la paille. La deuxième année, par contre, ils avaient, parce qu'ils observent, et donc la deuxième année, ils avaient repéré que quand je mettais de la paille, il y avait des graines en dessous. Le BRF, alors là, ils ont tout de suite compris, et comme il y avait plein de vers de terre, il y avait des fouilles absolument aussi. Ça, c'est vraiment formidable. Alors, bon, cette année, en octobre, j'ai mis en œuvre des nouvelles parcelles de BRF, mais aussi avec des enfants. Et ça, ça a été une expérience super, c'est que, bon, bah, du coup, on a discuté avec les enfants de qu'est-ce que c'était que la nourriture du sol, comment ça fonctionnait, et c'est eux qui ont boité, qui ont, avec leur petit père et tout ça, qui ont répandu le BRF sur le sol, et ce jardin est ouvert le week-end au public, donc du coup, on a communiqué aussi sur la technique, où j'ai fait un petit dépliant, et ça interpelle énormément, parce que moi, j'ai mis des petits panneaux partout, ne pas arroser, expérimentation BRF, etc., alors les gens, ils regardent, alors comme donc, on ne taille pas les tomates, donc là, les gens, ils regardent qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis, bon, voilà. Mais vraiment, je vous conseille, en bac, c'est...
Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience d'élevage en bac?
Mais en pot, le bac.
Ou en pot.
Ouais. Attends, ça, c'est formidable.
Debout.
Debout. Allez, lève-toi un peu.
Mon expérience en pot, en fait, j'ai mis des réunions de jardinage. Et suite à la rencontre de Jacques
Viens là. Approchez un peu par ici.
Viens là. C'est extra son expérience en cours.
Oui, j'ai mis un jardinage. Et suite à la rencontre chez Jackie Duvetti, je suis allé voir le travail de Jackie. Et donc j'ai été contaminé par le virus, le RF. C'est très contagieux. Et j'ai animé des réunions sur le BRF. Et donc j'arrive avec des petits pots, simplement des pots en plastique avec un couvercle. Et là j'avais préparé mes pots au mois de novembre. J'avais donc un avec des copeaux, un autre avec de la terre seule de mon jardin qui est sans BRF, et un autre avec des copeaux incorporés, voilà, depuis déjà plusieurs mois. Et je mets ça dans des pots et c'était prêt depuis le mois de novembre. J'ouvre le couvercle, je le laisse dans une véranda non chauffée. Et quand je l'ai repris la semaine dernière, évidemment, bon, les copeaux s'étaient affaissés, ils ont séché. La terre sans BRF s'était contractée et devient vraiment comme un bloc, sans plus d'humidité. Il y a un écart entre le pot et la terre. Et celui où il y a la terre avec les copeaux, là, il y a une transpiration. La terre est encore humide, c'est sec, juste un petit peu sur le premier centimètre. Ensuite, on voit l'humidité, on appuie dessus, on voit que c'est souple. Et il y a une transpiration dans le pot. Voilà. Simplement comme ça, vous pouvez faire l'expérience. C'est très, très parfait. Ouais. Ensuite, on a fait dans une foire bio, on a fait trois parcelles, enfin même plusieurs parcelles, parce qu'on a fait une parcelle BRF, on a fait une parcelle paillage de ronces, une parcelle engrais vert et une parcelle de paillage simplement copeau. Et là, le matin de la foire, les gens ont pu voir parce qu'ils n'avaient pas plu. Donc c'était il n'y avait pas besoin de discours, c'était très, très parlant. La terre, on avait semé des petits pois, donc les petits pois étaient déjà levés. On pouvait pratiquement creuser à la main, donc en entrant une fourche bêche, on voyait bien. On soulevait, on voyait, c'était très parlant, on voyait des pois, des champignons, il y avait les vers de terre. Et dans les autres carrés, c'était totalement différent, c'était compact, moins d'humidité, on ne voit pas d'emblée les vers, enfin bon. L'expérience est vite faite, il suffit de mettre en pratique, je me dis là. Après, on ne peut pas. Enfin, moi, je ne suis pas scientifique, je ne m'explique pas la totalité, mais j'ai constaté une chose. C'est que l'expérience marche dans la mesure où il y a de l'humidité. Sans humidité, c'est totalement différent. Et je pense que ça peut être un démarrage de recherche parce que je crois que ça se tient. Au niveau de l'humidité, c'est ce qui crée la sève pour la croissance d'une plante. Et donc évidemment la plante va chercher la lumière, et c'est vrai, elle cherche les photons, elle grandit peut-être pour ça, mais en dessous, il se passe aussi des choses, et c'est la sève qui anime la croissance du végétal. Et donc, pour que cette sève pénètre bien l'arbre, cette énergie monte dans l'arbre, il faut un certain taux d'humidité. Ces copeaux emmagasinent beaucoup d'humidité et évidemment de nourriture. Donc là, on met en route un processus qui fonctionne très très bien.
Juste un petit point, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est 3h15, il nous reste 3/4 d'heure, il faut qu'on garde un peu de temps pour la deuxième partie. Je consacre encore 20 minutes peut-être toute cette partie. Donc, pour ceux qui n'ont pas parlé, il faut y aller, faut vous dépêcher. S'il n'y a rien d'obligatoire, évidemment, mais il y a des tas de gens qui ont des choses à dire.
Alors, oui, témoignage d'abord, parce que cette saison, depuis un an, nous avons lancé une expérimentation BRF avec un réseau d'ateliers volontaires. Et c'est une expérimentation sur 2 ans. Et le protocole a été préparé avec l'aide de Jackie et de Daniel Henry. Donc là, on est en retour sur la première année déjà, sachant que les gens vont reprendre cette année. Alors déjà, je dis une sur les insectes végétaux, on retrouve tout ce qui a été dit depuis hier. Mais ça m'amène une première remarque. Quand on travaille avec des jardiniers, on a des retours qui sont toujours très intéressants parce qu'au-delà du protocole, il y a toujours les à côté qui permettent d'apporter beaucoup d'informations. Mais ça illustre aussi le fait que quand on voit les pratiques des jardiniers, il n'y a pas de dogme. Il peut y avoir quelques points de repère, mais chacun a sa pratique. Et je dis ça par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le débat qu'il y avait tout à l'heure. Je crois qu'on peut donner ici, au niveau des BRF, quelques points de repère pour l'appliquer chez soi, qu'on soit jardinier ou agriculteur ou paysagiste. Mais je crois qu'il faut par contre ne pas trop figer les choses. C'est là que je reprends un peu ce que dit. Ça, c'est la remarque. Et la question, dans les retours qu'on a eu des jardiniers, il y a eu plusieurs remarques, plusieurs questions sur problèmes de limaces et problèmes de tempanium. Je voudrais savoir s'il y en a ici qui ont rencontré ces problèmes-là.
C'est bon, moi, germination.
Et limaces.
Oui, limaces aussi. Limaces. Ah oui, limaces.
Quelqu'un a une réponse sur limaces?
Bah oui. Limaces.
Limaces, globalement,
on a des milieux. Non, non,
plus fort, plus fort.
Avec des champagnes qui sont en fait dignes de ce nom, on n'a pas de problème de campagnol pour avoir des lignes de purée.
Ah non, alors là je suis pas d'accord.
Mais oui, non, mais c'est un problème encore une fois d'équilibre global. De rééquilibre.
Il y a énormément de bus, de bilans et d'autour. Et on est surinfecté de surmulot et de campagnol.
Il y a des moments où on est confronté à ce problème-là. Et chez les jardiniers, qui sont des jardiniers, la plupart ont des haies chez eux, bon, on n'est pas dans les champs, hein, donc, ils sont confrontés à ce problème de campagnol en testant le BRF. Donc moi, ma question, c'est savoir si des personnes qui sont confrontées à ça.
Alors il n'y a pas plus comme prédateur. Il y a les renards. Alors si vous avez un terrain où le renard ne va pas.
En ville, c'est
en ville. Ah oui, j'ai une œuvre, il y a plein d'œuvres. Alors il faudrait réinstaurer la couleuvre, la buse, les renards. Souvent fois dans les zones urbaines, on n'a pas le renard. Ah, donc, dans ces cas-là, moi ce que je préconise, c'est que quand on n'a pas le prédateur, il faut faire le prédateur soi-même. Alors c'est ce que je fais moi dans mon jardin, eh bien j'y mets des appâts empoisonnés, c'est tout. Et c'est le seul truc.
C'est pas bio ça.
Ben oui, mais c'est pas bio. Allez-y,
c'est pas bio.
C'est
une révolution.
Attendez, allez-y.
Je réponds à monsieur là-bas, alors moi le problème des limaces, le mieux c'est de les enlever à la main parce que j'ai essayé de mettre des pièges à bière, mais le problème des pièges à bière c'est que ça attrape plus les prédateurs de la limace que la limace elle-même. Donc du coup ça déséquilibre, alors qu'avec le BRF,
c'est
des carabes, c'est des insectes noirs. Pardon ?
Les carabes vont dans la bière, et quand on est entomologiste et qu'on veut collectionner les carabes, vous faites des pièges avec de la bière.
On attrape plus, avec des pièges à bière, on attrape plus l'insecte qui mange, enfin qui tue l'animal. Donc les pièges à bière, c'est assez mauvais comme truc, le mieux c'est à la main.
Alors, je vais répondre. Moi j'ai fait 2 choses dans mon jardin. Je fais pour les limaces. Je fais le piège à bière, Mais le piège à bière, il faut le laisser 3-4 jours, vous n'attrapez pas les carabes. En 3-4 jours, 4-5 jours. Et après, vous videz votre bière. Parce que si vous laissez fermenter les limaces dans la bière, ça attire les carabes et vous prenez plein de carabes.
Comment vous les faites,
moi, vos pièges à bière?
Alors moi,
je n'ai
jamais pris
de
carabes.
D'accord, là. Comment vous les faites, vos pièges à bière? Comment vous les faites, vos pièges à bière?
Alors, mes pièges à bière, je prends un petit ramequin à crème du commerce que je recycle. Donc, je l'enterre un tout petit peu dans la terre et je mets un morceau de bois en travers dessus pour mettre une petite soucoupe pour le protéger contre la pluie.
Voilà.
Pour pas s'abîmer par la pluie. D'accord. Je mets un caillou pour pas que la soucoupe soit envolée par le vent. Et je mets un deuxième petit morceau de bois pour les carabes. Je mets un deuxième petit morceau de bois comme ça, plongé en biais dans le récipient.
Okay, puis
c'est-à-dire que s'il y a un carabe qui tombe dans la bière, eh bien, il va remonter par le morceau de bois.
Exactement.
Il ne sera jamais piégé.
Voilà.
Hein?
Mais moi j'ai une autre technique. J'ai récupéré des bouteilles plastiques. Je me suis rendu compte que je m'en suis servi de cloche pour protéger les cours. Des bouteilles plastiques de 5 litres d'eau. J'avais coupé le fond et je m'en suis servi de cloche. Et j'ai découvert un jour, un matin, qu'il y avait des limaces dessus. J'ai pris une bouteille donc entière, j'ai découpé deux lumières de chaque côté, je mets la bière dedans, les hérissons n'y rentrent pas et les carabes non plus. Parce qu'elle ne peut pas monter sur le plastique. Elle glisse. Elle ne peut pas monter. Donc je n'attrape que la limace.
Voilà.
Garantie.
Pour faire des schémas.
Il ne faut pas mettre le piège au niveau du sol. Si vous mettez le piège au niveau du sol, les carabes tombent dedans quand ils
passent. Voilà, face à autre chose. Hein? Le plastique, elle ne peut pas prendre.
Alors,
elle ne peut pas s'accrocher.
Du compost, on va dire du broyage assez avec des vinchettes de légumes et beaucoup de déchets verts. J'ai du bon résultat depuis 4-5 ans. Pour les prédateurs, des prédateurs, on en a partout. Que ça soit dans l'état, ça arrive d'en avoir, c'est pas pour ça qu'on est en même champ. Il y en a un peu, bon, il faut vivre avec, je pense déjà. Sur les limaces, on en a autant, je pense, que font du BRF. À part le sulfosphate de fer, je connais rien.
La bière.
Surtout, nous, on a quand même presque un hectare de légumes, on ne voit pas à la nouvelle avec des trucs de bière.
Ah si, ça va super vite. Hein.
Oui, non, mais je sais pas.
Moi, j'étais impressionné. Des limaces, comme ça, des grosses limaces rouges.
J'ai plein de choses sur le BRF. Pour l'instant, j'en ai pas
assez
dans les fossés quand l'équipe envoie les bords de route, mais j'ai pas fait l'expérience. Ma question, c'était, enfin, la proposition, c'est tout le monde a plein d'idées. Est-ce que c'est possible de monter un forum sur Internet pour que les gens
échangent?
Il existe déjà.
Parce que moi, j'y suis allé, j'ai vu des expériences de tomates dans du BRF.
C'est quoi l'adresse?
Ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait le BRF, etc. C'est moi ce que je voulais dire, bon, je suis forestier. Vous avez vu hier que les forestiers ils en sont à la bois énergie. Ils ne sont pas encore au BRF. Et personnellement, étant à l'ONF, je pense que ce n'est pas la forêt publique. Bon, la forêt privée, c'est 73% de la forêt. Elle peut peut-être fournir, je ne vais pas parler pour elle. Mais je pense que la forêt publique, donc domaniale communale, n'a pas les moyens et ce n'est pas dans ses priorités de fournir du BRF. Par contre, ce qui est vachement intéressant au niveau de la démarche intellectuelle, et c'est peut-être un aspect sociologique, c'est en tant que citoyen que je parle, est-ce que le BRF, c'est pas un moyen de réconcilier l'agriculteur avec l'arbre? Parce qu'aujourd'hui, l'arbre, c'est l'emmerdeur qui empêche les machines d'aller tout droit. Dans le Nord-Est, bon, il y a la culture de l'open field. Bon, les remembrements ont fait qu'on a des parcelles immenses de plusieurs dizaines, centaines d'hectares. Les petits bois qu'il y avait, ils sont coupés. Bon, ce qu'on a vu tout à l'heure à Pré-Rivière, c'est des fossés. Donc, c'est vraiment des déserts biologiques. Et est-ce qu'il n'y a pas une option à prendre plus facile dans l'Ouest où le blocage existe, plus difficile dans l'Est, justement, de réconcilier l'agriculteur et la forêt? Et puis, je signale aussi que dans le cadre le changement climatique, il y a une conférence internationale où on a dit qu'il fallait planter 1 milliard d'arbres sur la planète. Donc, ça peut être aussi une participation des agriculteurs, sachant que la forêt, on ne se fait pas de soucis, elle augmente les jours, 30 000, 40 000 hectares par an. Là-dessus, bon, il y a de la ressource, effectivement. Mais je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est réconcilier l'arbre avec l'agriculteur et l'arbre. Et là-dessus, il y a un paradigme, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut acquérir. J'en dis pas plus.
On a un premier temps, en vallée de Chevreuse. Autour de mon jardin, j'ai 3 paysagistes qui vident leur bois de coupe. Et qui le brûle. Alors, Et ça, ça dans plein de régions, je vois des feux comme ça, des paysagistes, il y a même des décharges sauvages de paysagistes, etc. Hein, avec des bois de coupe dans les sols. On regarde ça parce qu'on a fait une association pour régler ces problèmes. Hein. Et alors quand dans un premier temps, il y a déjà beaucoup de branches, de broyats et de coupes de simples de taille à récupérer hein, chez les paysagistes et d'organiser des petits réseaux avec un petit broyeur à moyen ou peut-être, je ne sais pas, se faire financer par l'ADEME et monter des petits réseaux, mais de locaux, vraiment locaux. Hein, avec un emploi à mi-temps ou un truc comme ça, ou un emploi complet si c'est plus important, mais que ce soit très local. Parce que le paysagiste, pourquoi il brûle? Parce qu'il ne veut pas aller à la décharge, à l'aire de compostage de déchets verts qui est à 20 km. Il ne veut pas faire 10 ou 20 km pour aller la décharger. Il préfère brûler dans son coin de terrain chez lui parce que c'est trop loin d'aller décharger. Et il va payer pour décharger.
Hein? Pour votre première question, on va y venir dans quelques minutes. Peut-être qu'on termine cette première partie qui n'est pas terminée, mais enfin il faut qu'on se débrouille pour la terminer.
Oui. J'ai une question aussi, pareil en termes d'approvisionnement. Autant les maintenant ça pose problème pour la forêt, parce que si on les extrait, ça contient beaucoup d'éléments minéraux, on a un problème d'appauvrissement. Autant en forêt, on a beaucoup d'invendus en éclaircie. Si c'est la lignine qui est importante, si c'est la lignine carbone, est-ce que du bois, du tronc,
déchiqueté,
ça peut pas
être.
Non.
Non.
Est-ce
que ça ne
peut
pas
être
essayé?
Non,
ça a été dit, écrit. Les expériences de Lemieux ont essayé au début, on s'était dit, bon, c'est du carbone, c'est de l'aluminium, il n'y a qu'à balancer tout et n'importe quoi. Et on s'est vite rendu compte que là où on mettait du bois collinaire, c'était une stérilisation du sol. C'est temporaire, c'est vrai. Mais à l'échelle humaine, ce qu'on peut cultiver avec du BRF, avec des rameaux, on peut cultiver en mettant un peu d'azote ou pas, ou attendre un peu un an, on arrive à cultiver rapidement. Si on met du bois collinaire, on va attendre 5 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans.
Dans une publication assez récente, je crois que Gilles Lemieux écrivait que 50% de l'énergie d'un arbre était concentrée dans ses rameaux de moins de 2 cm de diamètre.
Et dans le camp bio, dans la partie de l'arbre, parce que le cœur de l'arbre, c'est ça.
L'évidence, c'est mort.
C'est pour ça que c'est plus difficile à décomposer.
Mais, et ça, c'est essentiellement là.
Je pense que c'était un résultat
de bois.
Ça doit peut-être dépendre ensuite des champs.
Non, enfin, parce que dans le bois, il y a bois raméal fragmenté. Oui. Raméal, tout simplement, à cause de la richesse en nutriments.
Voilà.
Les études de Winter et compagnie ont fait ressortir quand même, et ça, c'est pour toutes les essences, catégories confondues, une décroissance exponentielle de la teneur en nutriments avec l'augmentation du diamètre. Et c'est vrai que sur le graphique, enfin la majorité des graphiques qui ont été publiés dans les articles scientifiques, on a ce point d'inflexion qui est exactement à 7 cm. Et c'est vrai que nous, en tant que forestiers, 7 cm, c'est en dessous de 7 cm, c'est du bois qu'on n'utilise plus. C'est du bois qui n'est plus industrialisable.
Ce sont des résidus.
C'est des résidus, c'est ce qu'on appelle à la main.
Madame. Je voudrais quand même m'inscrire un peu en faux par rapport à le toit absolument.
Parce que ça marche là-haut.
Oui,
je voudrais
par rapport à l'excès
plus fort
de rigueur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un peu de bois collinéaire dans du broyat plus fin, ça ne pose pas non plus un problème majeur.
Ah non, mais c'est la totalité du bois collinéaire.
Oui, mais c'est vrai que si on prend que du bois de tronc et qu'on fait que de la sciure, ça va poser problème. Mais j'en connais qui le font quand même, qui mélangent de la sciure, il y a peut-être des compromis à trouver. Et je voudrais savoir, des bois de première éclaircie, ça fait quel diamètre?
Les petits bois, c'est classe 20, 25, là, c'est... qui ont du mal à trouver son air. La question, on peut quand même poser, il y a pour un peu des classiques qui ne sont pas vendus. Là-dessus, il y a plus facilement pour l'écosystème forestier, c'est quand même mieux.
Jusqu'à preuve du contraire, on dit
qu'on parle de complexifier
les choses. Des branches à 1 cm de diamètre, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même des utilisations en grande culture pour des types de matières, sachant par mélanger avec une série de
branches. C'est des technologies.
Il y a quand même une utilisation en grande culture, mais évidemment, au niveau du jardinage, c'est moins important.
D'accord. Madame, excusez-moi. Oui, je sais bien.
Parce qu'il y a un petit truc qui me gêne un petit peu, c'est quand même le broyeur. Oui. Et ça demande beaucoup
l'énergie et quand on veut faire des grandes surfaces, en fait, c'est quand même un peu fort. On s'énergie beaucoup, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a eu des expérimentations? Enfin, moi, je l'ai fait à ma petite échelle dans mon petit jardin de 200 mètres carrés et puis j'ai coupé avec le sécateur les ongles et c'est mais est-ce qu'il y a eu des expériences à chaque grande échelle en juste en découpant des rameaux et en les laissant comme ça? J'imagine que ça ralentit un peu le phénomène, mais. Il y a des expériences, est-ce qu'il y a des...
Moi, je peux dire l'énergie qu'on utilise, sauf l'énergie humaine, on produit... Moi, j'ai un broyeur qui broie assez gros, et avec 4 litres de gasoil, on peut faire 20 mètres cubes de broyat. Donc, c'est pas énorme.
On me demande, ça rejoint sur votre question, on demande quel est le type de matériel pour les particuliers. Moi, je me suis intéressé à titre personnel, évidemment, et je n'ai pas de pub à faire spécialement, mais j'en ai trouvé un pour moi qui correspondait à mes contraintes. C'est-à-dire que, étant travaillant en terrage, j'avais besoin d'un truc qui soit transportable. Donc d'abord 25 kg, pas plus, et j'ai trouvé un produit autrichien qui est très bien, à 6 couteaux. Et l'avantage, ça c'était le hasard, je ne le savais pas lorsque je l'ai acheté, fait qu'on ne peut pas couper plus de des branches de plus de 3 cm avec, donc voilà. Moi ça me convient tout à fait
bien.
C'est parfait.
Mais il y en a pas mal
sur le marché.
Il y a une question qui se pose précisément sur les broyeurs, il y a deux types fondamentaux, d'après ce que j'ai compris, il y a les broyeurs à couteau et les broyeurs à marteau.